Il est 22h, vous écoutez Europe 1. A tout de suite, le journal de la nuit.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Bonsoir. Des restrictions sanitaires bientôt allégées à l'école primaire. Dans 10 jours, les élèves ne porteront plus le masque dans les départements les moins touchés par le virus. Les détails dans un instant. Trop tôt peut-être pour parler de réconciliation, mais Paris et Washington vont vers l'apaisement. Emmanuel Macron et Joe Biden se sont parlé au téléphone. Le ton redescend dans la crise des sous-marins. Les dépenses de l'État s'envolent dans le budget 2022, alors que des mesures coûteuses n'ont pas encore été intégrées. Explication à suivre. Nous serons au procès des attentats du 13 novembre. Vous entendrez le récit de l'intervention héroïque d'un commissaire parmi les premiers policiers à entrer au Bataclan. Il a bravé la mort pour sauver des vies. Nous irons aussi à Bordeaux, où une employée de Vaccinodrome était jugée en comparution immédiate. Elle est accusée d'avoir établi une vingtaine de faux passes sanitaires pour ses proches. 7e journée de Ligue 1, on prend la température de Metz PSG. Cyril de la Morinerie, quel est le score ?
Le score, un partout. La deuxième mi-temps vient de reprendre à l'instant. Kiki Kouyaté a égalisé à la 39e minute après l'ouverture du score parisienne à la 5e minute d'Hakimi.
Merci Cyril, on vous retrouve à la fin de ce journal. La météo, c'est du beau temps qui s'installe, nous dira Marlène Duret. À suivre, Top à Wall Street avec Didier Hamot. À 22h20, l'invité éco sera Philippe Corot, fondateur de Miracle, alternative française à Amazon.
Europe 1.
On commence donc par cette bonne nouvelle pour les petits écoliers. Le masque ne sera bientôt plus obligatoire en salle de classe dans les départements où la circulation du virus est la plus faible. Ça faisait déjà quelques jours que le gouvernement laissait espérer un allègement des restrictions. Après le Conseil de défense sanitaire de ce matin, nous y sommes. C'est donc l'école qui va en bénéficier, Louis Dragnel.
Alors, ça vous concerne principalement si vous avez des enfants. À partir du 4 octobre, c'est-à-dire dans 10 jours, les enfants, mais pas les enseignants, ne seront plus obligés de porter le masque à l'école primaire si un certain nombre de conditions sont réunies. Il faut que l'école se trouve dans un département où le taux d'incidence est inférieur à 50 pendant une durée de 5 jours consécutifs. Alors à ce stade, 41 départements sont sous ce taux d'incidence de 50 et 31 d'entre eux sont sous ce seuil depuis 5 jours, la condition fixée par le gouvernement. Et donc si on veut être optimiste, 14 départements supplémentaires qui ont aujourd'hui un taux d'incidence compris entre 50 et 60 pourrait passer sous les 50 d'ici le 4 octobre. Ensuite, pour ce qui est de la levée du pass sanitaire, vous savez, il en était question depuis plusieurs jours. Il reste en place pour le moment, mais le gouvernement travaille bel et bien à une levée progressive et territoriale de ce pass. On en saura plus début octobre.
Merci Louis. Dans l'immédiat, c'est donc bientôt la fin du masque en salle de classe dans les départements les moins touchés par le Covid. Une décision qui ne fait pas l'unanimité chez les scientifiques. Pour l'épidémiologiste Mircea Sofonea, le gouvernement se précipite un peu.
C'est une mesure que l'on souhaite évidemment à terme, mais c'est peut-être un peu tôt parce que la rentrée n'a eu lieu qu'il y a 3 semaines. Pour le moment, l'effet qui peut arriver avec du retard sur les transmissions à l'école, et on sait qu'elles existent, peuvent encore se faire jour. Et puis, il y a la rentrée dans la mauvaise saison. Ce variant Delta est très contagieux. Il peut être encore plus contagieux lorsque les jours seront plus frais et plus courts. Et enlever le masque dans des salles de classe qui n'ont pas forcément été équipées de purificateurs, c'est forcément s'exposer à davantage d'événements de transmission entre enfants qui ne sont pas, dans leur grande majorité, pour les plus jeunes, vaccinés. Donc, lorsque l'on prend de telles mesures, il faut les accompagner de moyens de surveillance accrus et ainsi pouvoir être réactif si jamais cette reprise venait à être importante.
Mircea Sofonea, épidémiologiste à l'Université de Montpellier avec Élise Dangean. Il aura tout de même fallu une semaine de crise diplomatique entre Paris et Washington avant qu'Emmanuel Macron et Joe Biden s'expliquent en direct. C'est désormais chose faite, les deux présidents ont échangé au téléphone cet après-midi, la mise au point était devenue incontournable en pleine crise des sous-marins. Un communiqué commun a été publié, il en ressort une forme d'apaisement et si l'on en croit Washington, Alexis Guilleux, le ton de la conversation était plutôt détendu.
Oui, une conversation amicale selon la porte-parole de la Maison-Blanche. Le coup de téléphone a duré environ 30 minutes et Joe Biden espère que c'est une étape vers un retour à la normale. Alors le communiqué commun esquisse une forme de mea culpa de la part de Washington. Des consultations ouvertes auraient permis d'éviter cette situation. Interrogé pour savoir s'il y a eu des excuses de la part de Joe Biden, la porte-parole de la Maison-Blanche a botté en touche sans répondre précisément. Une manière pour Washington de reconnaître que les formes n'ont pas été mises et qu'il y a bien eu un faux pas américain. C'est Joe Biden qui avait sollicité cet appel avec Emmanuel Macron et on sait qu'il avait été surpris par l'ampleur de la réaction de Paris. Avant ce coup de téléphone, des officiels américains assuraient que le président allait vouloir apaiser les tensions avec la France. Les deux chefs d'État se sont donc accordés sur un retour de l'ambassadeur français à Washington la semaine prochaine. On rappelle que c'est la première fois que le représentant français aux États-Unis a été rappelé à Paris pour consultation. Joe Biden et Emmanuel Macron se verront eux fin octobre en Europe. Ce sera l'occasion pour le président américain de répéter que la France est un partenaire essentiel, y compris dans l'Indo-Pacifique. Mais sur le fond, après cette crise diplomatique et ce coup de téléphone, il n'y a aucune remise en cause du nouveau partenariat entre les États-Unis et l'Australie.
Merci Alexis Guilleux aux États-Unis pour Europe 1. Les dépenses de l'État s'envolent dans le budget 2022 présenté ce matin en Conseil des ministres. Malgré la fin du quoi qu'il en coûte, les nouvelles dépenses annoncées au cours des dernières semaines ont fait gonfler la note. Mais il y a un deuxième hic. Le budget doit normalement passer au tamis du Haut Conseil des finances publiques. Or, cet organe indépendant repousse la copie du gouvernement. Il se dit même incapable de rendre un avis, Carole Ferry. Alors qu'est-ce qui coince ?
Eh bien, le problème, c'est que ce budget 2022 est un texte à trous. Il ne tient pas compte de certaines mesures promises, mais pas encore budgétées. Le plan d'investissement pour 2030, par exemple. Combien seront dépensés l'an prochain ? Point d'interrogation. Le revenu d'engagement pour les jeunes ? Pareil. Les 1,5 milliard promis à Marseille ? Pas une ligne pour le moment dans ce budget. Les montants doivent être tranchés lors du débat parlementaire, mais difficile d'ici là d'évaluer la cohérence de l'équation finale. L'opposition a par ailleurs dénoncé une accumulation de dépenses. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a défendu lui ce matin la sincérité totale des choix budgétaires qui visent à investir et préparer l'avenir. Il s'en est pris ensuite à ses opposants.
Notre politique réfléchie n'a rien à voir avec le n'importe quoi budgétaire de nos opposants, qui ne cessent de multiplier des propositions toutes les plus farfelues les unes que les autres, sans le moindre euro de financement. De rachat des autoroutes à 40 milliards d'euros, en passant par l'augmentation générale des salaires de 10% financée par l'État pour 25 milliards d'euros, au doublement du salaire des enseignants pour plus de 50 milliards d'euros, tout cela ne tient pas la route et est très loin de la politique réfléchie que nous avons menée avec le président de la République pour faire face à la crise et avoir désormais un niveau de croissance parmi les plus élevés de la zone euro.
A noter tout de même que la dernière fois que le Haut Conseil aux finances publiques s'est montré aussi sévère vis-à-vis d'un budget, eh bien c'était pour le dernier budget du quinquennat de François Hollande.
Carole Ferry du service économie d'Europe 1. Europe 1. Nous allons maintenant au procès des attentats du 13 novembre 2015, car c'est encore un témoignage très fort qui a été livré aujourd'hui à la barre de la cour d'assises spéciale. Les parties civiles ont entendu le récit du premier policier de la BAC à être entré au Bataclan quelques minutes seulement après le début de la tuerie. Ce commissaire était avec l'un de ses collègues, il a tué l'un des terroristes et c'est au péril de sa vie qu'il est parvenu à sauver des otages, Gladys Laffitte.
Oui, et pourtant, en un regard, le commissaire et son équipier se sont mis d'accord pour pousser les portes du Bataclan en pensant qu'on ne les franchirait pas dans le sens retour, acte d'emblée le policier. Avec pudeur, il décrit d'abord un tapis de corps et puis une voix, celle d'un terroriste qui menace un otage près de la scène. Le fonctionnaire tire 4 coups, le terroriste tombe et se fait exploser. Dans sa kalachnikov, une cartouche est chambrée, le commissaire vient de sauver l'otage. Mais il est ensuite la cible de tir, alors par réflexe, il dit adieu à ses proches. On allait mourir ce soir-là, c'était écrit. Pourtant, il sort et rentre 3 fois dans le Bataclan, sauf d'autres victimes qu'il tire de la fosse. Alors à découvert, des personnes lourdes car elles avaient baigné dans le sang, précise-t-il. Sous des corps, un petit garçon de 5 ans, un casque anti-bruit sur les oreilles. Il est vivant aujourd'hui. Malgré ses vies sauvées, le commissaire exprime un remords de ne pas avoir pu extraire d'autres victimes. On n'avait que notre courage à opposer aux terroristes. On ne pouvait pas aller plus loin, regrette-t-il.
Gladys Laffitte au procès des attentats du 13 novembre 2015. À Bordeaux, une jeune femme a été jugée ce mercredi en comparution immédiate pour avoir fourni de faux certificats de vaccination. Cette jeune femme, âgée de 19 ans, travaillait comme contractuelle au vaccinodrome de Bordeaux, le plus grand centre de vaccination de la ville. En tout, elle a créé plus de 20 faux passes sanitaires pour ses proches, Stéphane Place.
Un gilet clair sur un t-shirt noir, cette jeune femme de 19 ans s'installe dans le box, sortant directement de sa garde à vue, la première de sa vie et la dernière, assure-t-elle à la présidente du tribunal correctionnel. 24 faux certificats de vaccination pour 16 bénéficiaires émis à partir des ordinateurs du vaccinodrome bordelais où Samia avait été embauchée le 1er septembre. C'est là que la PJ vient l'interpeller lundi. Le médecin référent de ce centre implanté au parc des expositions a découvert des incohérences. Les deux injections qui auraient été reçues le même jour par une seule personne, par exemple. Après une interpellation un peu mouvementée, l'agent administratif reconnaît les faits devant les enquêteurs, mais uniquement pour des membres de sa famille ou pour rendre service à des amis. Pas de business, pas d'argent, se défend la prévenue, qui s'écroule en larmes quand elle entend le procureur réclamer à son encontre de la prison ferme. Maître Margot Castex est l'avocate de la jeune employée du vaccinodrome.
Il n'y a jamais eu la preuve d'un but lucratif, et d'ailleurs elle l'explique. C'était pour 16 personnes, 16 personnes de son entourage. Immaturité, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a 19 ans, que c'est une gamine. Et elle le dit d'ailleurs elle-même, hein. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Elle a fait ça sans réfléchir.
Finalement condamnée à une peine de 18 mois de prison, intégralement assortie du sursis, la jeune femme n'aura plus le droit d'exercer dans la fonction publique durant 5 ans. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1.
L'Algérie annonce ce soir la fermeture de son espace aérien à tous les avions marocains, qu'ils soient civils ou militaires. Nouvelle illustration des tensions croissantes entre les deux pays. Le 24 août dernier, l'Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc en raison notamment de la question du Sahara occidental. Le PSG affronte donc Metz ce soir pour la 7e journée de Ligue 1. On retourne en direct du stade Saint-Symphorien à Metz avec vous, Cyril de la Morinerie. On en est où ?
55 minutes de jeu, toujours un partout entre l'équipe messine et le Paris Saint-Germain. Metz bon dernier, mais Metz eh bien, qui réalise une très très belle prestation ce soir face au Paris Saint-Germain. C'est le PSG hein, qui a ouvert la marque avec Hakimi. C'est Icardi qui a débordé sur le côté gauche. Il est allé très vite, il a frappé. Udol, le Messin, a fait un sauvetage sur sa ligne, mais Hakimi est arrivé à toute vitesse et il a pu mettre le ballon au fond. Défilé, c'était donc à la 5e minute et ensuite à la 39e minute, alors que la deuxième partie de la première mi-temps, eh bien les débats se sont équilibrés et ont même penché en faveur de l'équipe messine. Un corner et une tête superbe boxée à d'une vitesse phénoménale de Kiki Kouyaté qui a permis à cette valeureuse équipe de Metz d'égaliser un partout. Metz qui aurait même pu marquer un deuxième but avec Gay qui s'est retrouvé tout seul face à Keylor Navas. Mais Keylor Navas a réalisé une parade impeccable. Un partout pour le moment entre Metz et le PSG. Neymar, Mbappé n'y arrive pas. Ils essayent de mettre plus de rythme, plus d'intensité dans cette seconde période, à l'image de Neymar qui fait une feinte de frappe qui va finalement frapper. Ça va passer juste à côté, la frappe de Neymar. Un partout pour le moment donc à Metz. 56 minutes de jeu.
Affaire à suivre, Cyril de la Morinerie, merci. On vous retrouve bien sûr juste avant 22h30 pour ce match PSG-Metz-PSG. Les résultats par ailleurs de cette 7e journée de Ligue 1, Lille se relance contre Reims, 2-1. Nantes, vainqueur de Brest, 3-1. Monaco-Saint-Etienne, c'est 3-1 également. Enfin, Rennes a écrasé Clermont 6-0. J'allais oublier, Montpellier-Bordeaux, c'est un match nul, 3-0 avec des incidents du reste avant le début de cette rencontre. Un bus de supporters bordelais est tombé dans un guet-apens organisé par des supporters de Montpellier qui les attendaient à un rond-point. Le tout s'est terminé en bagarre générale. On dénombre 16 blessés légers. Aucune interpellation à ce stade, précise la police qui cherche toujours à identifier les auteurs. On prend maintenant des nouvelles du temps pour demain.
Vous rêvez de ciel bleu, de soleil, de chaleur. Aux Seychelles, il fait 29 degrés toute l'année. Et chez vous, il fait combien ? Les Seychelles vous présentent la météo.
La météo pour ce jeudi, Marlène Duret, pas de jaloux, hein, ce sera du beau temps pour tout le monde ou presque demain.
Oui, il y aura quand même quelques jaloux, je vais vous raconter tout ça. Alors oui, du beau temps grâce à l'anticyclone positionné entre l'Atlantique et l'Allemagne, nous sommes en automne. Vous savez qu'anticyclone en automne, ça rime pas forcément avec beau temps, ça dépend du vent, de la masse d'air et du taux d'humidité. Mais il se trouve que demain, une fois la grisaille évacuée, le soleil va pouvoir briller généreusement avant midi, a priori. La grisaille, on va la retrouver sous forme de nuages bas ou de brouillard, et on va en trouver près des cours d'eau, ou en tout cas dans des endroits humides, notamment vers les Pays de la Loire, les Hauts-de-France, les régions du Grand Est, autour du Massif Central, dans les vallées de la Saône ou encore au sud de la Garonne. Alors les moins chanceux, ou les jaloux si vous préférez Alexandre, près des côtes de la Manche, on va avoir des nuages bas, et apparemment ils vont résister tout au long de la journée. Voilà. Bon. Et puis près des Pyrénées, l'arrivée d'un voile de nuages élevés viendra s'ajouter aux nuages un petit peu plus épais sur le Piémont et le Relais. relief, avec peut-être quelques averses qui pourraient se déclencher dans l'après-midi. Mais sinon, c'est vrai, c'est une belle journée, soyons positifs. Comme ce matin, il fera frais sur la moitié nord du pays, avec 4 à 8 degrés, excepté du côté de la Bretagne et du littoral de la Manche. Là, on aura 9 à 12. Plus au sud, on prévoit 10 à 15, pour le matin toujours, et jusqu'à 17 vers la Méditerranée, peut-être même un petit peu plus localement. Quant aux températures maximales, elles seront comprises entre 18 degrés à Cherbourg et 28 à Aix-en-Provence ou Ajaccio, avec par exemple 22 à Biarritz, Lille, Dijon, 23 à Paris et Strasbourg, 24 à Lyon, 26 à La Rochelle et Toulouse ou encore 27 degrés à Nîmes.
Merci Marlène Durin, on vous retrouve à minuit pour un dernier point météo. Restez avec nous sur Europe 1 à suivre Top à Wall Street avec Didier Hamot, l'invité éco ce soir Philippe Corot, le fondateur de Miracle, l'alternative bleu-blanc-rouge en quelque sorte à Amazon, et puis on découvrira ensemble les unes de la presse pour demain matin. A tout de suite.
Europe Nuit, informez-vous avec Alexandre Lemaire sur Europe 1.
Il est 22h15, bienvenue si vous nous rejoignez, c'est Top à Wall Street avec Didier Hamot. Bonsoir Didier.
Bonsoir Alexandre.
Wall Street donc qui poursuit son rebond après les annonces sans surprise de la Réserve fédérale américaine ce soir.
Pas de grand bouleversement non de la part de la Fed, plutôt une confirmation avec un resserrement monétaire progressif qui pourrait commencer au mois de novembre. Les indices boursiers n'en prennent pas ombrage. Le Dow Jones gagne encore 1%, 34 258 points. Le Nasdaq plus 1,02%, 14 896 points. Après donc ce message très dosé, comme souvent de la part de la Banque Centrale Américaine. Quelques valeurs se distinguent. Du coup, Apple, du côté des valeurs de technologie, plus 1,7%, remonte à $145,85. On a de belles hausses sur Amazon, plus 1%, sur Microsoft, plus 1,3%, sur Tesla, qui remonte d'1,7% à $751,94. Il y a quand même un couac, c'est Facebook qui perd 4%. $343,21. La dernière mise à jour du système d'exploitation de l'iPhone pèse sur les revenus publicitaires du groupe Facebook en raison d'une masse de données collectées plus réduite. Donc ça plombe le titre qui perd ce soir 4%. Le pétrole remonte un petit peu, 1,7% de mieux, $72 le baril. Ça donne Exxon en hausse de 3% à $55,21. L'euro est plus faible, il revient à 1,17 face au dollar.
La bourse de Paris, elle aussi, a poursuivi son mouvement de rebond sur le CAC 40.
Une belle hausse, oui, plus 1,29%. Le CAC 40 remonte à 6637 points. Les nouvelles rassurantes en provenance de la situation financière en Chine ont profité au groupe exportateur industriel, comme dans l'automobile Renault, plus 3%, avec Faurecia, plus 4%, Valeo, plus 3% aussi, Stellantis, plus 3,2%. Les pétrolières, donc, dans le sillage du baril, ça remonte pas mal sur Vallourec, plus 3%, sur Total, plus 2,5% à 39 euros. Technip Énergie gagne même 5% à 12,85 €. Le luxe, bien sûr, Kering en profite, plus 2,5%, et LVMH qui reprend 1,1% à 643,30 €.
Exception du jour, le secteur des services informatiques qui a marqué une pause.
Encore beaucoup d'agitation, beaucoup de rumeurs autour du devenir d'Atos en particulier, qui perd 1%, 44,56 €. Sopra Steria, qui était cité comme candidat repreneur d'Atos, a démenti. Le titre recule ce soir de 3,8% à 164,10 €. Le broker Stifel ne vise plus qu'un cours de 155 € sur Sopra, sur ce groupe de services informatiques qui est un petit peu chahuté en ce moment. Capgemini, le leader, perd plus modestement 0,2% ce soir à 193,20 €. Les autres places financières sont en hausse, donc le rebond se prolonge partout. Le DAX à Francfort, plus 1%, Bruxelles, plus 0,7%, Madrid, plus 0,6%, Milan, plus 1,4%, et donc le CAC 40 en hausse d'1,29%, 6637 points.
Merci Didier Hamot de Boursier.com. L'invité éco ce soir, Philippe Corot, fondateur de Miracle, l'arme tricolore anti-Amazon. Miracle, entreprise de la French Tech bien nommée, puisqu'elle vient de réaliser une levée de fonds record. Philippe Corot répond à Emmanuel Duteil. Bonsoir Philippe Corot.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le fondateur de Miracle. Alors je pense que pas mal de nos auditeurs ne connaissent pas Miracle. Et pourtant, vous êtes l'une des stars de ce que l'on appelle la French Tech française, puisque vous créez ce que l'on appelle des places de marché pour de grands groupes. On peut citer par exemple Darty, c'est-à-dire que vous faites toutes les plateformes qui nous font dépenser beaucoup d'argent sur Internet, si on doit résumer. Et ça, ça marche, parce que si on a voulu être en ligne avec vous ce soir sur Europe 1, c'est parce que vous faites partie de ces entreprises qui lèvent beaucoup d'argent pour financer leur développement. Les chiffres sont fous, hein, 555 millions de dollars, ce qui vous valorise. C'est-à-dire, vous valez aujourd'hui 3,5 milliards millions de dollars. Et vous, ce qui est fou, c'est que vous aviez déjà levé des centaines de millions d'euros il y a de cela, allez, quelques mois maintenant. Comment vous expliquez ce besoin d'argent et ce développement massif que vous connaissez du côté de Miracle?
Alors, ce besoin d'argent, comme vous dites, il est avant tout pour investir, parce que nous investissons massivement. On investit massivement dans nos équipes pour fournir la technologie qui est aujourd'hui la technologie qui est leader mondial en termes de solutions logicielles de marketplace. Ensuite, on investit aussi pour faire croître notre plateforme Miracle Connect, qui est un peu la marketplace des marketplaces. C'est une plateforme technique sur laquelle on a réuni l'ensemble des opérateurs, l'ensemble des vendeurs et l'ensemble des partenaires ou prestataires technologiques qui gravitent autour de l'univers marketplace. On investit aussi pour notre internationalisation. Aujourd'hui, Miracle est présent dans 14 pays, mais on a encore des espaces géographiques à aller conquérir avec notre solution logicielle. Et c'est aussi le développement de nouveaux use cases, de nouveaux types de marketplace ou de plateformes avec lesquels Miracle pourra être utilisé pour développer des nouveaux business pour nos clients. Et tout ça nécessite une technicité, une technologie extrêmement avancée. C'est pour ça aussi qu'on lève des fonds, c'est pour pouvoir se laisser l'opportunité de se développer à travers des acquisitions.
Comment vous expliquez en ce moment, dans ce monde de la French Tech, que vous leviez à ce point-là autant d'argent? Vous avez changé de dimension. Maintenant, un patron comme vous se dit c'est mondial dès le début. Comment vous expliquez qu'on ait changé d'échelle?
Je pense que la France a quelque part retrouvé sa place qu'elle a eue il y a quelques décennies dans l'univers de l'innovation et des technologies. Parce que souvent, on citait l'innovation. Quand on parlait d'innovation française, on parlait du Concorde, du TGV ou du Minitel, qui sont des technologies qui ont plus de 40 ans. Aujourd'hui, la France, grâce à un écosystème favorable, grâce à des talents uniques au monde, elle retrouve sa place d'innovation. Dans l'innovation, c'est aussi un environnement et un écosystème favorable qui a été créé grâce...
Mais c'est quoi cet écosystème favorable? Vous qui êtes chef d'entreprise, je le dis, vous en êtes là, votre deuxième levée de fonds en quelques mois, on parle de centaines de millions d'euros. Jusque-là, on disait... On arrive à créer son entreprise en France, à petite start-up, on arrive à la développer, 10, 15, 20, 30, 40 millions d'euros, puis après c'est fini. Il n'y a plus d'argent pour parce que personne ne nous fait confiance. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous allez taper à la porte des investisseurs, vous dites « Bonjour, je suis Miracle, j'ai une solution super, donnez-moi des sous et on vous les donne
». Alors, nous, ce qu'on met en avant, avant tout, c'est nos équipes, notre technologie et nos clients. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on a des équipes? Je pense que on a des bonnes équipes, et je vous dis, il y a un savoir-faire français qui a toujours été là, mais qui a peut-être retrouvé de la vigueur ces dernières années. Après, il y a, c'est sûr, un environnement favorable qui a été créé par le gouvernement avec des initiatives comme la French Tech, avec des initiatives comme Choose France qui a eu lieu il y a quelques mois. C'est-à-dire tout cet environnement favorable qui est créé par le gouvernement se retrouve concrètement par des investissements étrangers ou européens qui sont faits dans des entreprises françaises et qui ont pour conséquence de créer des emplois en France dans les technologies, dans les startups, mais aussi dans tout l'écosystème qui gravite autour de nous, parce que Miracle c'est 550 collaborateurs aujourd'hui, mais c'est des dizaines de milliers d'entreprises qui utilisent notre technologie au quotidien pour créer du business additionnel et donc créer des emplois dans les équipes achats, marketing, vente, etc.
Vous êtes par ailleurs chez Miracle dans un secteur que la crise a totalement boosté, puisqu'on peut citer d'autres licornes françaises, d'autres entreprises qui valent plus d'un milliard d'euros dans votre secteur. Mano Mano, qui est aujourd'hui le leader européen du bricolage. Back Market, qui est l'un des leaders de tout ce qui peut être produit, notamment de téléphones reconditionnés. La crise a encore développé plus rapidement que ce qu'on pouvait imaginer la consommation sur Internet?
Oui, la crise a été un accélérateur, on ne peut pas le nier, la crise a été un accélérateur parce que en fait, les périodes de confinement ont créé des nouveaux besoins chez les clients, des besoins de consommation différentes, donc déjà en utilisant l'e-commerce, pas plus qu'avant, la tendance est accélérée. Et aussi des nouveaux besoins dans des nouveaux type de produit. Quand on a beaucoup parlé de home office, on a beaucoup parlé du sport à la maison, etc. Pour répondre aux problématiques liées au confinement. Et les entreprises, tous les acteurs industriels qui n'avaient pas ce business model de plateforme qui leur permettait d'être plus agiles, ils sont retrouvés embêtés. Donc ça les a fait réagir. Donc ceux qui étaient déjà des marketplaces, ceux qui avaient déjà des marketplaces, se sont montrés agiles, donc ont pu bénéficier de leur marketplace pour mieux servir leurs clients. Et ceux qui ne l'avaient pas se sont dit, bon, on est en retard, c'est le moment d'y aller, on va y aller. Donc ceux-là, ils sont allés rapidement et ça a créé une forte traction sur le marché des marketplaces.
Au début de cette interview, vous nous disiez à quoi allaient servir ces 555 millions de dollars, notamment à vous développer à l'international. Est-ce que ce n'est pas aussi ça quand même qui a peut-être le plus changé? Au début, on voyait le marché français, puis on se disait, tiens, si ça marchote, j'irai peut-être voir ailleurs. Est-ce que vous, dès le démarrage chez Miracle, vous avez eu une vision mondiale en vous disant « la technologie est la bonne et je vais conquérir le monde » ?
Oui, 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 parce que les technologies sont par nature aujourd'hui souvent internationales. Donc, dès le départ, on avait cette ambition d'aller conquérir le monde, surtout qu'on était sur un marché qu'on a créé, qui n'existait pas. Donc, on savait que la dimension de ce marché était mondiale. Donc assez tôt, on a commencé à s'exporter.
Un grand merci Philippe Corot. Je rappelle que vous êtes le patron de Miracle. Miracle qui a donc réalisé elle aussi l'une des plus grosses levées de fonds de l'histoire de la French Tech en France. Nous on se dit à demain 22h20 sur Europe 1.
Merci à vous Emmanuel Duteil. On vous retrouve également demain dès 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayac. Vous recevrez demain Thomas de Richebourg, le patron de Richebourg Environnement. Et nous le verrons avec vous Emmanuel, jamais nos déchets n'auront autant rapporté.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire vous informe sur Europe 1.
Un premier tour des unes de la presse pour ce jeudi matin. Vos quotidiens se penchent sur les dépenses de l'État l'année prochaine. Un budget de fin de mandat qui se trouve sous le feu des critiques, note Le Figaro. Le projet de loi de finances 2022 est marqué par une multiplication des dépenses. En tout cas, les baisses d'impôts promises par le chef de l'État seront bien mises en œuvre. Il s'agit, note Le Figaro, de la suppression progressive de la taxe d'habitation pour les ménages aisés et de la baisse à 25% de l'impôt sur les sociétés. Le budget 2022 également, la une des Échos, avec les derniers choix d'Emmanuel Macron, le chef de l'État qui veut garder sa crédibilité malgré la hausse des dépenses. En tout cas, en matière d'impôts, l'État va engranger 20 milliards d'euros de plus que prévu de recettes fiscales, relève les Échos. Et puis finalement, la France devrait encore bénéficier de la mansuétude de Bruxelles. Le budget 2022 à la une de l'Opinion également, c'est le du grand relâchement, titre l'Opinion. Les attaques de la droite sur la multiplication des annonces coûteuses commencent à inquiéter l'Élysée. Bruno Le Maire, vous l'avez d'ailleurs entendu dans le journal de 22h sur Europe 1, a contre-attaqué lors de la présentation du budget du projet de loi de finances 2022. Une question à la une de Libération demain matin. Peut-on débattre avec n'importe qui? Le message masque le regard d'Éric Zemmour. Politique et médias s'interrogent sur la manière de traiter Éric Zemmour, quasiment candidat, multi-condamné par la justice, écrit Libération, alors que Jean-Luc Mélenchon a choisi de l'affronter ce jeudi soir à la télé. La Croix a suivi le parcours de Roya, une jeune Afghane de 16 ans, dont vous découvrez le visage à la une de La Croix, donc, et qui a été accueillie dans un village de l'Allier, de Kaboul à la France. C'est une nouvelle vie qui commence pour Roya. 22h28 sur Europe 1. On retourne tout de suite au stade Saint-Symphorien pour Metz-PSG, 7e journée de Ligue 1. Cyril Delamorinerie, vous êtes en direct, où en est-on ?
73 minutes de jeu, un partout entre Metz et le Paris Saint-Germain. Inquiétude pour Kylian Mbappé qui est à terre, qui va sans doute se relever. Ça y est. Mais on le voyait grimacer, le joueur parisien. Il a été tout simplement touché par un médecin, Dylan Brown, qui n'est pas allé de main morte. Il a écopé d'un carton jaune avec un geste sur pas loin du mollet, hein, parce qu'on sait que c'est le mollet qui a un petit souci du côté de Kylian Mbappé. Il souffre un petit peu au mollet, mais ça va mieux pour lui. Il a repris donc sa place sur le terrain. En tout cas, globalement, le Paris Saint-Germain est décevant ce soir. Il y a eu une bonne première partie de première mi-temps avec un but d'Hakimi, mais ensuite ils ont baissé pavillon, les Messins, avec beaucoup de jeunesse, avec beaucoup d'envie ce soir. Ils ont réussi à égaliser, ils auraient même pu prendre l'avantage. Et dans cette seconde période, eh bien, le Paris Saint-Germain n'y arrive toujours pas. Et du coup, il y a eu un double changement. Herrera et Di Maria sont entrés à la place de Rafinha et Wijnaldum. Neymar est un petit peu plus reculé au milieu de terrain. Il a un peu quitté sa position d'attaque pour laisser à Di Maria le flanc gauche. On va voir si ça fonctionne mieux. En tout cas, le PSG et Metz sont toujours à égalité. On vous rappelle les buteurs. C'est Hakimi à la cinquième minute qui avait marqué le premier but, l'égalisation, et signé Kiki Kouyaté à la 39e minute. Il reste encore un bon quart d'heure à jouer dans le temps réglementaire, un partout entre Metz et le PSG.
Merci Cyril, on vous retrouvera à 23h sur Europe 1 pour refaire un point avec vous dans le rappel de l'actualité. Il est 22h30, c'est la Libre Antenne avec Olivier Delacroix, dès maintenant. Bonsoir Olivier.
Bonsoir mon cher.
Vous avez vu qu'on prévoyait un match en mode David contre Goliath, c'est pas tout à fait ce qui se passe.
Complètement, mais il ne faut jamais présager de la force de Goliath. Il reste un quart d'heure, je vous le rappelle.
Il reste un quart d'heure.
Et quand nous nous retrouverons tout à l'heure avec ce charmant Cyril, je pense que les Parisiens auront pris, je pense, un léger avantage. Mais on verra.
On va en reparler très rapidement.
En tout cas, vous aurez compris que c'est ce que je souhaite vivement.
En toute neutralité, on avait compris.
En toute neutralité, même si je trouve que, franchement, Paris ne joue pas très bien ce soir. Mais bon, c'est le football. On vous retrouve tout à l'heure pour le Flash, mon cher ami.
Oui, à tout à l'heure, Olivier.
À tout à l'heure, à 23h.